Mandrin. Première partie, chapitre 18. Le devoir et l'amour. Lorsque monsieur et madame Malisset réintégrèrent vers 10 heures du soir leur demeure de Beaujeu, après un voyage exténuant, quel ne fut pas leur étonnement en apercevant les fenêtres du rez-de-chaussée brillamment illuminées. « Ah, ça !» s'écriait l'opulente Thérèse. « Il y a donc du monde chez nous ?»«
Cela m'en a tout l'air, » bégayait le brave Agénor, qui n'avait plus qu'un désir, regagner son lit moelleux où il pourrait enfin s'étendre à son aise.
Madame Malisset vociférait. « Serait-ce par hasard nos clercs qui auraient profité de notre absence pour se livrer à quelque coupable orgie ?»«
Cela m'étonnerait, bon ami.
Nous allons bien voir. » Et, suivie par son mari, Thérèse pénétra en coup de vent chez elle. « Parbleu, j'en étais sûre !» s'écria-t-elle. « Ce sont ces maudits scribouillards qui s'en donnent à cœur joie avec le vin de notre cave !» Et elle s'élança dans la pièce, mais elle s'arrêta sur le seuil, figée de stupeur. Deux individus, l'un très grand, à la figure joviale, au sourire égrillard, l'autre assez petit, malingre même, aux yeux de fouine et au nez immense, étaient installés devant une table, au milieu de laquelle, parmi les reliefs d'un plantureux festin, s'alignait une respectable rangée de bouteilles presque toutes vides.
« C'est étrange !» grommela Thérèse. « Mais il me semble que j'ai déjà vu ces têtes-là quelque part.
»« Moi aussi !» déclarait Agénor tout tremblant. Les deux convives, apercevant les maîtres du logis, s'étaient levés et se dirigeaient vers eux, en les saluant avec une déférence affectée. L'un, s'emparant d'un siège, l'offrait à Madame Malisset en disant
« Prenez donc la peine de vous asseoir !»
Brusquement, elle se retourna vers son mari et, laissant échapper la fureur qui grondait en elle,
« Ah, ça !» s'écria-t-elle. « Quels sont ces gens ? Et que viennent-ils faire ici ?»
Mais l'homme au grand nez sortait un papier de sa poche et, tout en esquissant une nouvelle révérence, il le tendit à Madame Malisset qui, s'en emparant, lut ce qui suit. « Billet de logement. J'ordonne à mon beau-père et à ma belle-mère, le sieur et la dame Malisset, de traiter avec tous les égards dus à leur rang mes compagnons. Mi-Carême, mon trésorier, et Carnaval, mon secrétaire. Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France.
« Son beau-père et sa belle-mère »
répétait Thérèse suffoquée. « Parfaitement, affirmait Mi-Carême. « Devant Dieu et devant les hommes, appuyait Carnaval.
« Ah ça !»
s'exclamait Madame Malisset. « Est-ce que vous vous moquez de nous ?»«
Oh, madame !» protestait le trésorier. « Comment pouvez-vous supposer une chose pareille ?»
Et le secrétaire d'ajouter, en feignant un vif étonnement,
« Vous ne savez donc pas que votre fille a épousé notre cher capitaine ?»
À cette déclaration, faite sur le ton le plus sérieux du monde, Madame Malisset leva les bras au ciel. Quant à son mari, il dut s'appuyer au chambranle de la porte pour ne pas tomber à la renverse. Se ressaisissant la première, Thérèse s'exclamait.
Ben « Voyons, ce n'est pas possible. Nicole était déjà mariée avec M. Bourré d'Érigny. »
Les deux compères secouèrent négativement la tête. « Erreur !» lançait Mi-Carême. « Grave erreur !»«
Voyons !»
objectait Mme Malisset. « J'ai vu, de mes yeux vus, un prêtre leur donnait la bénédiction nuptiale.
« Moi aussi, » approuvait Agénor.
« Ce prêtre n'était pas un prêtre, » déclarait Mi-Carême. « Vous dites ? C'était Mandrin qui faisait le curé, et Carnaval et moi qui étions le diacre et le sous-diacre.
Oh, horreur ! Abomination ! Sacrilège ! » hurlait Thérèse, au comble de l'indignation.
« Calmez-vous, madame, » intervenait Carnaval. « Le capitaine Mandrin ne nourrit à votre égard aucune mauvaise intention.
Loin de là. Nous venons en son nom et en celui de sa femme vous inviter à les rejoindre en leur château.
Oh, c'est trop fort !
Et nous vous prions de nous suivre sans retard.
Jamais !
Sans doute, reprenait Mi-Carême, nous en voulez-vous parce que, conformément aux instructions du billet de logement que nous avait remis notre chef, nous n'avons pas attendu votre retour pour restaurer nos estomacs affamés et désaltérer nos gosiers plutôt secs.
Hors d'ici !
Ne nous fâchons pas, ma petite mère, conseillait Carnaval.
Sans compter, posa Mi-Carême, que le capitaine Mandrin vous aime déjà tous les deux comme un père et une mère, et qu'il sera enchanté de vous le prouver par une hospitalité princière.
Inutile d'ajouter que madame votre fille a le plus grand désir de vous revoir.
Nous n'avons plus de fille, vociférait Thérèse, et je vous répète, hors d'ici, ou j'appelle la maréchaussée.
Chère madame, avertissait Carnaval, tout en tirant négligemment un pistolet accroché à sa ceinture, ne nous forcez pas à employer certaines mesures de rigueur dont nous serions les premiers affligés.
Oui, Thérèse, articulait péniblement Malissé, ces messieurs ont raison, et puis notre fille est tout de même notre fille.
À ces mots, un flot de larmes jaillit des yeux de l'excellente Thérèse. Mieux que le pistolet de Carnaval, qui ne semblait nullement intimider la commère, le brave Agénor venait, sans s'en douter, de trouver les simples mots capables de la désarmer.
« Nicole, fit-elle avec une émotion qu'elle ne pouvait plus combattre, ma pauvre petite Nicole, la femme de ce...
C'était sans doute écrit là-haut, s'empressait de répondre l'entreposeur, qui n'avait jamais été aussi hardi ni aussi loquace.
« Allons, madame, » encourageait Carnaval.
« Ne soyez donc pas plus sévère que monsieur le curé de Beaujeu. »«
Le curé de Beaujeu ?»«
C'est lui qui a béni le mariage du capitaine et de votre fille. »«
Tu vois bien, mamie, »
conclut Malissé, qui n'en revenait pas lui-même de son courage.
« Oui, tu vois bien que c'est Dieu qui l'a voulu. »
« Alors, cédait enfin Thérèse, que sa volonté soit faite, messieurs, je vous suis. »«
Nous serons peut-être en retard pour le souper, s'excusait Mi-Carême, mais j'espère que nous arriverons à temps pour le bal. »
Les gens de monsieur de Voltaire, stimulés par leur maître, avaient fait de leur mieux pour offrir à Mandrin, à sa femme et à ses amis, un repas, sinon raffiné, mais du moins plantureux.
Aussi, sur les 10 heures du soir, la salle à manger du château du Bon Repos offrait un aspect aussi pittoresque qu'animé. Tandis qu'installés autour de tréteaux encombrés de plats et de bouteilles, les contrebandiers faisaient bonne chère et buvaient sec, Mandrin et Nicole, assis à une petite table en face de Voltaire, manifestaient un bonheur sans mélange. Le grand écrivain, lui aussi, semblait radieux. Mais ce n'était pas seulement la joie juvénile des jeunes mariés et la bonne humeur de leurs compagnons qui le mettaient en liesse. Voltaire échafaudait dans son esprit la belle histoire qu'allait lui inspirer cette étrange aventure, et déjà il aiguisait les traits acérés qu'il ne manquerait pas de lancer contre ce fermier général odieux et ridicule. En même temps que chantaient en lui les strophes lyriques qu'il comptait bien consacrer à la gloire de Mandrin. L'ascendant que l'illustre cerveau exerçait sur ces hommes frustes était si considérable que tous se turent comme par enchantement. En effet, si la plupart des compagnons de Mandrin, montagnards farouches, isolés et illettrés, ignoraient jusqu'à son nom, il avait suffi que Mandrin leur affirmât qu'il était leur ami pour que tous, subissant inconsciemment la force d'irradiation qui émanait de cet homme de génie, se sentissent pris pour lui d'une admiration spontanée autant qu'ardente.
« Madame, » commença Voltaire en s'adressant à Nicole, d'une voix un peu grêle, mais si nettement et clairement accentuée qu'elle semblait remplir la vaste pièce, « permettez-moi de lever mon verre à votre santé, ainsi qu'à celle de votre mari, » le capitaine Mandrin !»
Des applaudissements chaleureux saluèrent ces premières paroles, accompagnés d'un cliquetis de verres et de gobelets s'entrechoquant. Lorsque le silence se fut rétabli, Voltaire reprit.
« Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une meilleure nuit que celle qui attend le fermier général bourré d'Érigny. »
Ce fut alors une explosion de rires qui s'égrenèrent sous les voûtes de la salle comme un roulement de tonnerre. Tandis que Mandrin et Nicole échangeaient un tendre regard, Voltaire poursuivait de nouveau, religieusement écouté par tout son auditoire,
« Nul, plus que moi, ne saurait s'en réjouir, car j'ai toujours été l'ennemi de ceux qui oppriment le peuple et l'ami de ceux qui, comme vous tous, mènent le bon combat des justes révoltes et des revendications nécessaires. Voilà pourquoi, désireux d'apporter au capitaine Mandrin et à sa charmante femme le témoignage de mon affectueuse estime et de ma sympathique admiration, en guise de cadeau de noces, je dépose ce château de bon repos dans leur corbeille de mariage. Il n'est certes pas digne de la véritable fée dont j'entends qu'il soit désormais le domaine, mais je ne doute pas que, sous sa baguette magique, il ne se transforme promptement en une de ces demeures où il fait bon vivre et où il sera très doux de s'aimer. »
De nouveau, les acclamations et les bravos retentirent avec encore plus d'enthousiasme. Nicole et Mandrin, eux aussi, s'étaient levés et tendaient leurs mains à Voltaire, qui les serra avec force.
« Maintenant, fit-il, pendant que ces guélurons vont continuer à boire à votre santé, permettez-moi de vous conduire jusqu'au seuil de l'appartement que je vous ai fait préparer. Puisse cette première nuit passée sous ce toit vous porter bonheur. »
Et saisissant un flambeau à trois branches, tel un ambassadeur qui accompagnerait jusqu'au seuil de leur chambre un roi et une reine, ses hôtes, il précéda Nicole et Mandrin, salués une dernière fois par les bravos de tous les contrebandiers. Comme ils traversaient le vestibule, un domestique s'approcha de Voltaire et lui dit quelques mots à voix basse. Alors, le châtelain de bon repos, se tournant vers Mandrin, lui dit
« Capitaine, on me prévient qu'une femme désire vous parler. »«
Une femme ?» répéta Mandrin, un peu interloqué.
À peine avait-il prononcé ces paroles que la blanchisseuse que nous avons vue au château des Aigles écoutait si attentivement les instructions de Pistolet au sergent de la maréchaussée, apparut, suivie de près par le major et le brutal, et, se débarrassant brusquement de sa robe, de son bonnet, de sa perruque, le pays, se précipitant vers son chef, s'écria
« Capitaine, je viens vous rendre compte de la mission que vous m'aviez confiée.
« Parle !» ordonnait Mandrin, qui sentit les mains de Nicole trembler dans les siennes, car la pauvre petite venait d'avoir l'intuition, tout à coup, que de graves événements se préparaient.
« Capitaine, déclarait le pays, j'ai appris d'abord que Thiénot avait été fait prisonnier.
« Je m'en doutais, murmura le révolté, dont la figure avait repris tout à coup son expression d'indomptable volonté.
« J'ai su également que l'exempt Pistolet avait donné l'ordre aux gendarmes de le conduire demain au point du jour, sous bonne escorte, au présidial de Grenoble.
« Morbleu !»
Redoutant de votre part un retour offensif, le sergent, qui doit commander le détachement, a décidé, au lieu de prendre la grande route, de rejoindre par le chemin des Chirolles la brigade de Saint-Martin, à laquelle il doit remettre Thiénot.
« Bien travaillé !» complimentait le capitaine.
« Grâce à toi, notre compagnon ne tardera pas à recouvrer sa liberté. »
Remontant vers la salle, Mandrin s'écriait d'une voix éclatante.
« Debout et aux armes ! Thiénot est entre les mains de nos ennemis, et il s'agit de le délivrer sans coup férir. »
Nicole se précipita vers Mandrin. Elle n'eut qu'un cri.
« Tu me laisses ?»
Mais ce cri fut si vibrant d'amour et de détresse que Mandrin en tressaillit, douloureusement frappé au cœur.
« Nicole,
fit-il en l'attirant contre sa poitrine. « Nicole, mon aimée, si je te tiens ainsi dans mes bras, c'est à Thiénot que je le dois. Car c'est lui qui m'a sauvé. Le jour où, chez toi, traqué par les gendarmes, j'étais sur le point de tomber entre leurs mains. Mon devoir n'est-il pas de le sauver à mon tour ?» Nicole releva le front et, tout en enveloppant Mandrin de son regard noyé de larmes, elle approuva. « Oui, va, tu as raison. » Mandrin sentit son cœur battre à la fois de toute la douleur poignante que lui causait ce départ et de toute la fière allégresse d'avoir rencontré sur sa route une compagne qui l'aimait assez grandement pour ne pas le disputer à sa tâche. Après un long baiser, dans lequel il fit passer toute son âme, il reprit, en montrant Nicole à son hôte, « Monsieur de Voltaire, je vous la confie. » Et, s'arrachant à la dernière étreinte de sa femme, il se précipita dehors avec ses soldats. Nicole, incapable de se maîtriser davantage, éclata en sanglots. Paternellement, Voltaire lui prit les mains. « Calmez-vous, ma chère enfant, » fit-il avec un accent de grande bonté. Mais Nicole s'écriait « J'ai peur, oui, j'ai peur de ne plus le revoir. »